Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Data. Aujourd'hui, nous allons parler de développement de modèles de cube Analysis Services. Avec la version 2016, donc tout ce lot de nouveautés va arriver. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va parler du cube tabulaire qui apporte son lot de corrections et de nouveautés, dont va nous parler aujourd'hui Charles Henry de la société Scopit, qui va nous faire plusieurs démonstrations sur cette nouvelle solution. Bonjour Charles-Henri, puis merci d'avoir accepté mon invitation pour cette vidéo. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter très rapidement ?
Bonjour Franck, donc Charles-Henri Sauger, MVP Data Platform au sein de la société coopérative Scopit.
Ok, donc aujourd'hui tu vas nous parler de cube tabulaire.
Absolument, je vais parler du cube tabulaire, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, enfin les cubes en général et tabulaires parce qu'il faut y aller. Mmh. Et donc des améliorations qui vont être apportées qui vont nous permettre de faire du dev un peu de façon plus sérieuse avec plein de petites choses qui ont été corrigées et ça c'est super cool. Donc pour commencer, une chose qui a été corrigée, c'est le fait de pouvoir saisir des formules comme on pouvait le faire avant, mais qui ne plantent pas si on valide par erreur. Donc si là j'enlève une partie de ma formule et que je valide, bon, il me fait de l'autocorrection, ça c'est gentil. Si je force à faire une erreur.
D'accord. Alors comme ça, ça n'a l'air de rien, mais quand tu développes régulièrement des cubes, c'est quand même appréciable de ne pas avoir une erreur ou un plantage et de devoir relancer ton interface de développement.
Alors le problème, ce n'était pas trop le plantage qui encore n'était pas courant, c'était de se retrouver avec la formule donc, qui est fausse, qui me met un warning ici après l'avoir validé. Mais ce qui se passait avant, c'est qu'on avait une fenêtre qui s'affichait avec écrit « Attention, erreur, OK » et ça supprimait toute votre formule. Là, c'était un peu frustrant, donc ça, c'est fini. Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc là, je vais revenir en arrière pour enlever l'erreur. Hop. Donc, on gagne du temps, c'est plus pratique. Deuxième chose qui n'est pas moins révolutionnaire, en quelque sorte, je vais pouvoir changer le nom d'une colonne. Donc là, on voit que j'ai un distinct count de sales order number. Jusqu'ici, jusqu'à cette version, lorsque je renommais le sales order number, qui potentiellement était utilisé dans... un grand nombre de fonctions et de calculs, je devais traquer les différents endroits où elle était présente.
Où elle était présente, où elle était appelée en fait dans tes formules.
Là, on voit que la modification a été presque instantanée et ça, c'est un grand changement par rapport à l'ancienne version. J'ai fait le test tout à l'heure pour la démo. Ça me prenait presque 20 secondes à valider une erreur, un nouveau nom. Et ensuite, j'avais toutes mes formules qui étaient cassées.
C'est une erreur.
Maintenant, je me retrouve avec le changement qui est effectif assez rapidement et le changement qui est répercuté sur les niveaux sous-jacents.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça, c'est une excellente nouvelle. On va gagner en productivité et ça, c'est pas mal du tout. Alors voilà pour la partie interface changement un peu simple. Dans le même genre d'ordre d'idée, on gagne les display folders. Donc tu vois, ici, sur les mesures, je vais pouvoir rentrer un display folder, ce qui n'était pas possible jusqu'ici en tabulaire. De la même façon, sur mes colonnes, je vais pouvoir saisir aussi un display folder. Donc les display folders, c'est ce qui vous permet d'afficher un nom de dossier dans vos mesures et dans vos attributs, donc on va pouvoir recatégoriser les choses. Ça, c'est pas mal. Ça ira avec les traductions qu'on voit tout à l'heure aussi. Donc tout ça, ça a été possible. Et là où c'est bien, c'est que ça a été aussi uniformisé au sein d'un nouveau langage. Donc avant, on avait pour les cubes, si tu te souviens bien…
Le XMLA.
Voilà, il y a très longtemps, quand tu faisais encore des cubes… Le XMLA, mais à la limite, c'est là où tu t'es arrêté, je pense, dans les nouveautés des cubes.
Entre autres.
Donc le XMLA, on retrouve maintenant, donc si je prends un script de génération de cubes, que j'ai dû faire quelque part, hop, ici, donc ça, c'était notre cube en XMLA. Donc là, j'ai déployé sur ma machine de démo les deux cubes AdventureWork, un en 2012 et un en 2016. Donc là, j'ai la version 2012 qui me sort tout un tas de XMLA. Et la version 2016 qui n'est pas en XMLA, qui est en TMSL, Tabular Model Scripting Language. Donc on voit, ça, en fait, c'est du JSON, hein, tout simplement.
Non, tout simplement, ouais.
Donc, avantage de ce nouveau format, c'est plus lisible, c'est plus facile à merger dans TFS. C'est le problème que vous aviez avec les cubes, c'est que vous faisiez des modifications et vous vous retrouviez avec des différences. Et s'il y avait une différence sur un fichier, il fallait regarder dans le XMLA. Pas forcément évident de trouver, de voir ici quelle est la modification et ce que ça va impacter comme changement, parce qu'il y avait beaucoup d'ID, tout était assez dépendant. Donc, grosse nouveauté de ce côté-là.
Alors, une autre nouveauté dont on entend parler, c'est ce qu'on appelle le parallèle processing. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, puis nous montrer concrètement comment ça se matérialise?
Absolument. Donc, sur Multidim, c'était assez commun. On processait un cube et les éléments se processaient en parallèle si on avait la version Enterprise. Sur Tabulaire, on a vu une limitation. On ne pouvait pas processer, enfin, effectuer l'actualisation des partitions en parallèle sur la même table. Donc, du coup, ça a été mis en place. Et pour voir à quel point ça va apporter des gains de performance, on peut faire l'exemple ici. Donc, on retrouve notre langage de script qui me permet d'effectuer des actualisations. Mm-hmm. Petit problème, là, on voit que dans SSMS, ce n'est pas encore supporté, mais on imagine que ça va arriver pour la coloration syntaxique. Et donc là, on voit que sur mon cube, qui est exactement le même que celui en 2012, que j'ai juste monté de version, si j'actualise, cube partitionné donc, on voit que ça a mis 5 secondes sur la version tabulaire 2016 et sur la version XMLA. Il va falloir meubler un petit peu parce que c'est un petit peu plus long.
Donc là, tu exécutes sur une version 2012 ou 2014?
Là, c'est 2012.
2012, d'accord.
Enfin, c'est sur SSAS 2016, mais avec le modèle de compatibilité 2012-2014.
D'accord, ok.
Donc, c'est la même instance que l'autre. C'est la même instance.
Même instance, même cube.
La seule chose qui a changé, c'est le modèle, le compatibility level du modèle. Et donc, il y en a un qui est capable de processer en parallèle et l'autre qui ne l'est pas.
D'accord.
Donc là, on voit que ça a mis un tout petit peu plus longtemps, ça a mis 6 secondes. Bon, des fois, c'est le changement…
Oui, parce que là, tu n'as pas trop envoyé de rêve, là, entre 5 et 6 secondes. Mais j'imagine qu'en fait, on peut arriver sur des performances à presque x2 dans certains cas.
Dans la plupart des cas, sur des grosses volumétries, là, je suis sur un cube qui est tout petit, où j'ai des partitions qui doivent faire 20 000 lignes, ce n'est pas énorme. Sur des partitions de 20 millions de lignes, crois-moi, pour avoir fait le test, on peut gagner énormément de temps.
3, 4, 5 fois, sur parole,
5 fois les performances. Alors voilà pour les partitions, on a aussi des choses qui sont encore plus intéressantes, comme la traduction.
D'accord. Alors jusqu'à maintenant, tu nous montrais plutôt des évolutions du cube. Là, tu vas plus maintenant rentrer dans les nouveautés.
On est dans les nouveautés, mais qui nous rapprochent de ce que pouvait faire déjà le Multidim à l'époque.
Tout à fait. Mais là, on parle bien du tabulaire.
On parle du tabulaire. D'accord. Et des choses qui vont être possibles de faire maintenant et qui n'étaient pas possibles avant. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire des traductions. Donc comment ça se passe? Translation, Manage Translation. Je vais choisir ma langue. Donc on voit qu'on a un panel de langues assez important. Bon, normalement, le français, ça se trouve. Et on va dire, je vais créer un fichier de traduction. Hop. Là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose de… Hop, je vais le mettre sur mon bureau. French. De créer un fichier JSON. Fichier JSON que je retrouve ici, que je peux ouvrir dans Visual Studio. Hop, bon, ça me l'a ouvert dans le Visual Studio où j'ai un débugger qui tourne, mais c'est pas grave. Hop. Donc ce fichier JSON, il est fait comment? Il me rappelle la structure de mon cube et à la fin, il me permet de modifier mes traductions. Donc si je vais au niveau traduit en français, donc on voit que le JSON me dit que c'est pour le FRFR et je peux choisir par exemple la traduction de mon modèle, de mes tables, de mes noms de tables et de différents éléments de mon cube. Très pratique, sauf que là en JSON, tout de suite on se dit si je dois donner ça à mon utilisateur, il ne va pas être content, il va avoir du mal à remplir mon fichier JSON. Ouais. Donc pour éviter ça, l'équipe de Microsoft, enfin Casper surtout, a mis en ligne un projet de développement sur GitHub. Hop, donc que je vais utiliser, je vais fermer mon petit fichier JSON, hop, et donc ça s'appelle le SSAS Tabular Translator. Donc en open source sur GitHub, si vous voulez faire des modifications, vous pouvez. Je vais récupérer mon fichier, et là je vais être à même de changer les métadatas, de traduire les métadatas de mon cube, de façon un peu plus simple. Donc je vais mettre, hop, currency. Currency, comment tu traduis currency, toi?
Je mettrais monnaie, par exemple. Devise.
Devise, c'est pas bien, devise. Devise, hop. Donc, et là, si je sauve mes changements, ce qui va se passer, c'est que mon fichier JSON va être enregistré. Une fois ça réalisé, si je retourne sur mon projet, je vais devoir réimporter ces traductions.
Donc modèle, translation, voilà.
Import, translation, voilà. Charger mes traductions. On voit qu'il y a des opérations intéressantes ici, des options intéressantes. Écraser les traductions existantes, Ça, c'est bien seulement si vous êtes reparti des dernières traductions quand vous avez fait votre export. Ignorer les objets invalides, ça, c'est quand votre utilisateur il a voulu éditer le JSON lui-même et qu'il a complètement cassé une partie du JSON. Écrire le résultat dans un fichier de log. Et enfin, garder l'ancienne version des traductions, et ça peut être judicieux, avant de reposter le fichier. Une fois ceci fait, notre modèle.bim, notre fichier ici, va être modifié avec les traductions ajoutées, et ces traductions seront visibles dans le cube, en fonction de la locale de votre machine, comme c'était le cas avant sur Multidim.
D'accord.
Voilà pour cette partie traduction. Donc dans les vraies nouveautés auxquelles tu faisais référence, on a deux choses que je trouve particulièrement intéressantes. Une qui s'appelle les tables calculées, qu'on peut retrouver, qu'on peut utiliser pour faire des role-playing dimensions, et qui se créent assez simplement en faisant créer une nouvelle table calculée. Jusqu'ici tout va bien, depuis une formule DAX. Donc là je pourrais taper n'importe quoi qui me retourne une table basée sur les éléments à côté. Par exemple, je pourrais créer juste le nom d'une table. Donc si je vais aller chercher ma dimdate, ma date, hop. Et là, ça va me régénérer une dimension date. Je n'ai pas besoin de la recharger. Et je vais pouvoir faire mes relations avec cette nouvelle table calculée. Ça, c'est une solution. Alors moi, j'ai une solution un peu plus exotique dans le cas pour faire l'exemple d'une many-to-many. Alors pour les gens qui ne s'en souviennent pas, les many-to-many, c'est quand on a une relation plusieurs à plusieurs. Donc vous voyez, là, j'ai le cas. J'ai les sales reasons, donc les raisons de vente, qui sont attachées à une autre table qui est l'association entre les ventes, les raisons de vente et les ventes. Et j'ai plus d'une raison de vente pour une vente. OK ? Et j'ai plusieurs ventes pour une raison de vente, ce qu'on appelle une many-to-many. Donc du coup, si je veux requêter ce modèle-là, je me retrouve avec, comme on le voit ici dans ma requête DAX, le résultat, les ventes qui se répètent sur chacune des lignes. Pourquoi ? Parce que le modèle n'arrive pas à remonter toute cette chaîne d'informations pour aller retrouver, filtrer cet Internet Sales. Donc ce que je vais pouvoir faire pour éviter ça, c'est changer ici avec 2016 tout bof table. Dire tu vas filtrer, quand tu filtres cette table de relation avec la table Sales Reason, eh bien tu vas me filtrer dans les deux sens. Donc tu vas me filtrer aussi l'orders, et l'orders va filtrer la Internet Sales.
D'accord.
Donc on va voir si ça fonctionne. Petit effet démo ou pas. Et là, on voit que les chiffres sont bien répartis.
Répartir les chiffres, ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est bien. Alors, il faut savoir que cette table orders, elle n'existe pas par défaut dans notre schéma Adventure Work. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû créer cette dimension orders. J'aurais pu le faire avec un ETL, j'aurais pu le faire avec une vue, j'aurais pu le faire dans ma requête. J'ai choisi de le faire avec une table DAX. Tac. Donc si je vais dans Orders, on voit que cette table, elle est créée avec un summarize sur ma table Internet Sales et sur les Sales Order Number et Order Line. D'accord. Donc il m'a fait un distinct de mes deux champs, et ça m'a permis de ensuite faire mes jointures.
D'accord.
Donc on n'est plus obligé de forcer. Si on n'a plus la main sur la source, on va pouvoir faire des changements comme ça uniquement dans des tables virtuelles. C'est assez intéressant. Le dernier cas d'usage de ces tables DAX qui n'est pas négligeable, c'est la possibilité d'utiliser une petite fonction assez marrante. Enfin, en tout cas, moi, elle me fait rire. Je ne sais pas si elle va te faire rire.
Écoute, on va bien voir. Comme je sais que beaucoup de choses te font rire.
C'est pas faux. Donc, autre cas d'usage de ces tables DAX, ces tables calculées, la possibilité d'auto-générer notre dimension temps. Si on n'a plus envie d'utiliser des dimensions temps qui seraient générées en SQL, on peut utiliser calendar auto. Cette fonction, elle a l'intérêt d'automatiquement fixer ses bornes.
D'accord.
Donc, elle prend notre modèle de données tabulaire et elle va aller regarder la date la plus petite et la date la plus grande. Et elle va ensuite générer un jeu de dates entre ces dates les plus petites et les plus grandes. Et du coup, si tu connais très bien Adventure Work, tu devrais savoir…
Quand tu dis un jeu de dates, quelle est la fréquence justement d'intervalle entre ces différentes dates?
Tous les jours.
D'accord.
Des dates quotidiennes, c'est pour une dimension date.
Okay.
Et du coup, l'idée, c'est de générer toutes les dates et de pouvoir utiliser des fonctions type months, années, etc. pour… aller générer nos différents attributs directement en colonne calculée.
D'accord, il faut quand même que tu rentres months, days, years, si tu veux.
Tout à fait,
d'accord.
Pour ensuite enrichir notre dimension.
Okay.
L'avantage, c'est cette histoire de période. Bon, là, on voit que ça commence à 1910, c'est tout simplement parce que j'ai les clients, et les clients ont leur date de naissance qui commence en 1910 dans Adventure Work. D'où cette échelle qui n'est pas forcément liée à mes ventes, qui, elles, sont entre 2006 et 2008.
Puisque tu t'es basé sur tes clients et pas sur…
Parce qu'il s'est basé tout seul sur toutes les dates disponibles dans le modèle.
Okay.
Donc voilà, c'est un peu la limitation de cette partie-là. Et voilà, donc ça, c'est les nouveautés que moi, j'ai pu constater et qui font avancer le produit pour moi sur cette version 2016.
Merci Charles-Henri de devoir présenter ces nouveautés autour du Cube Analysis Services 2016 dans sa version tabulaire. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.